Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Parlons sport. Chaque semaine, retrouvez-nous à la radio, sur les réseaux sociaux et en podcast. Parlons sport, au plus proche des clubs et au cœur de l'actualité. Pour nous accompagner aujourd'hui, c'est un expert à sa façon, c'est Julien Mathieu. Salut Julien.
Salut Gilles, salut à toutes et tous.
Nos invités du jour sont issus du monde du handball avec tout d'abord Julien Kerville, directeur technique et entraîneur de l'ASC Trappes Handball. Salut Julien.
Salut à tous.
Nous avons également Jérémy Mordier, le capitaine de la même équipe, l'ASC Trappes Handball. Salut Jérémy.
Salut à tous.
Tout le monde est en place. Messieurs, on lance le sommaire. Parlons sport avec ce sport qui se joue à 7 contre 7 et où la France gagne toujours à la fin, le handball au cœur de cette émission. Nous sommes déjà à quelques semaines du championnat du monde féminin de handball et du championnat masculin de handball, le championnat d'Europe, alors que l'été dernier, les deux équipes nationales avaient été titrées aux Jeux Olympiques. La revue des troupes, ça se passera avec nos deux invités. On fera ensuite un focus sur les championnats de France masculin et féminin. Peut-on espérer un sacre du PSG handball en Ligue des Champions? Et puis quel modèle chez les féminines pour avoir un club comme Győr en France, le fameux club hongrois? Enfin, c'est l'ASC Trappes Handball qui est à l'honneur dans cette émission. Le club qui monte chaque année, ça fait depuis plus de 7 ans que ça dure, avec nos invités Julien Kerville et Jérémy Mordier. Voilà pour ce programme, honneur au sport collectif le plus titré de ces dernières Olympiades, c'est parti. On se souvient tous de ce dernier week-end olympique de folie à Tokyo l'été dernier. Les sports collectifs français ont fait une razzia en termes de médailles, sauf le foot bien sûr. Et en particulier le handball, l'équipe masculine battait en finale le Danemark. Et le lendemain, l'équipe féminine sortait le grand jeu contre la Russie. Alors tout d'abord, on va se replonger dans ces événements. Messieurs, ces sacres étaient-ils pour vous attendus, Julien?
Non, pour ma part, pas trop. Surtout, vu comment ça se passait côté masculin, avec des gros problèmes dans l'effectif, des contre-performances sur contre-performances.
Oui, alors côté masculin, on le rappelle que, et c'est un peu le paradoxe finalement de cette équipe de France masculine. On le disait juste avant de commencer l'émission, quand la France est attendue en championnat du monde, en championnat d'Europe, c'est un flop.
Toujours.
Et
quasiment toujours. Parce que...
et lorsqu'elle n'est pas attendue, au contraire, lorsqu'elle est attendue au tournant, eh bien là, l'équipe renaît de ses cendres. Les Phoenix sont de retour, les experts sont là. Et alors là, le contexte est quand même assez particulier parce qu'on a eu le départ de Didier Dinard, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui a été remplacé par son adjoint de l'époque, Guillaume Gilles. Ici, dans l'émission, on a toujours exprimé des doutes sur la capacité de ces sélectionneurs, anciens joueurs légendaires de cette équipe de France, mais sur leurs compétences en termes de management, en termes de coaching. Ils n'avaient rien prouvé, que ce soit Dinard ou Guillaume Gilles, en club. Et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et en tout cas pour Didier Dinard, eh bien on lui a montré le chemin de la sortie juste avant les Jeux Olympiques. Donc oui, enfin on avait tout ce contexte-là. Mais très rapidement, le rôle pour vous qu'a eu Guillaume Gilles dans ce sacre, est-ce qu'il a été primordial, ce nouveau sélectionneur?
Pour moi, déjà, il a su s'entourer. Donc voilà, il est venu avec un nouvel adjoint qui a beaucoup d'expérience.
Alors, c'est qui cet adjoint?
J'ai plus le nom en tête, je suis désolé.
Bon, on le retrouvera pas.
Qui a beaucoup d'expérience. Et le retour Karabatic. Je pense que ça
au niveau du jeu, tu veux dire?
Ouais, même au niveau de l'état d'esprit, je pense. Ouais. Niveau de l'état d'esprit, ça a changé pas mal de choses. Le patron, il est revenu.
C'est un cadre, donc quand il est là, voilà.
Il montre l'exemple sur le terrain, en dehors, il montre l'exemple. Donc, je pense que ça aide beaucoup derrière.
Jérémy, sur le sujet, l'équipe de France, tu les attendais aussi au sommet
Non, ils étaient vraiment dans une période plutôt compliquée.
Ouais.
On ne pensait pas qu'ils obtiendraient justement cette médaille d'or. Donc on ne les attendait pas vraiment pour ces JO. Par contre, on a toujours su qu'ils avaient un bon niveau. Voilà. On pouvait s'attendre à ce qu'ils arrivent facilement, peut-être en quart de finale.
Ouais.
Mais c'est vrai que le sacre là, on ne l'attendait pas du tout.
Sur le papier, ça reste une équipe extrêmement forte, incroyable. Mais une équipe vieillissante.
Ouais, mais l'orgueil, peut-être l'orgueil, ouais, la dernière compète pour certains. Ouais. Je pense que ça arrive.
Alors, ça sera la dernière compète pour qui, d'ailleurs?
Guigou, Abalo.
Lucas Abalo.
Ouais, voilà.
Ouais, Karabatic, il n'a pas encore,
positionné. Je pense
Il peut aller jusqu'à 2024, Karabatic, à son âge. Il aura 40 ans.
On va peut-être dans un rôle un peu moindre,
ouais, voilà.
Mais en encadrant, ouais, je pense qu'il peut y aller. Il peut y aller, ouais.
Alors, quelle relève là on a pour cette équipe de France masculine, parce que mine de rien, ça fait depuis longtemps qu'on parle de cette génération des experts. On parle à chaque fois de la relève et puis les experts sont là, ils s'éternisent dans le temps. Puis on a quand même eu des jeunes qui se sont greffés au collectif de l'équipe de France, au collectif gagnant. Petit à petit, je pense à Nedim Remili, à Nick Amem. À qui encore, à Fabregas,
ouais,
et puis là on parle beaucoup du fils de Jackson Richardson,
oui,
Melvin Richardson
exactement.
J'allais le dire.
Après moi ce qui me fait peur un peu sur la relève là, je vois pas de il y a des bons joueurs, mais à certains postes je vois pas trop la relève. Sur le poste de demi-centre je suis pas fan.
Je suis d'accord.
C'est qui nos demi-centres?
Il y a Rémilly qui joue beaucoup demi-centre. Je suis pas fan, il joue beaucoup pour lui.
Bon, pour les gardiens, Vincent Gérard, on a vu que c'était un petit peu compliqué pour lui là lors des JO, mais il avait quand même remplacé brillamment, enfin il avait succédé brillamment à Thierry Omeyer dans les cages. Est-ce que ce serait pas là du coup peut-être un poste où on a des lacunes?
Si, c'est le poste.
Oui, je pense.
Ouais. Surtout dans notre sport à nous. Ouais. Nous, le hand, c'est le gardien, c'est 60% de l'équipe,
ouais,
même voire plus.
Ouais.
Un bon gardien,
il fait la différence.
Il te retourne un match. Ouais. Et Omeyer, c'est difficile de prendre la relève quand même. C'est pas facile.
Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de France masculine lors des prochains championnats d'Europe? On le rappelle, championnat qui se déroulera au mois de janvier prochain. Donc, ça approche.
C'est difficile de repartir après un titre. Hein.
Et le titre est tout frais.
Ouais, c'est difficile.
C'est vrai ou pas que le championnat d'Europe est considéré comme une compétition plus difficile que le championnat du monde?
Ouais, c'est très dense.
Les équipes européennes sont les meilleures en général.
C'est les meilleures, exactement. C'est très, très dense. C'est très dur de... On va dire que sur les plus grosses compétitions, tu as des matchs un peu où tu peux faire tourner, où tu peux faire souffler des gars, etc. Là, tu peux pas, quasiment pas. Le niveau est trop élevé. C'est très, très dur. Je pense qu'ils ont plus galéré sur certains titres de championnat d'Europe que championnat du monde ou d'Olympique. Ouais.
Et on a connu des championnats d'Europe post-titre qui se sont révélés catastrophiques. Je pense à une élimination prématurée il y a quelques années. Je ne sais plus si c'est contre le Danemark.
C'est ça,
ou quoi.
Exactement.
Là, ce serait quoi une performance honorable? Alors, à cette question, j'en pose une autre. Est-ce qu'une contre-performance fragiliserait la position de Guillaume Gilles en termes de sélectionneur de cette équipe de France?
Non, je pense pas. Après, c'est possible parce qu'une contre-performance, forcément, ça peut fragiliser un petit peu tout.
Ouais.
Mais je ne pense pas, puisque par exemple, si on prend l'exemple de l'équipe de France de football, et ben du coup, malgré le titre de 2018 et ensuite le petit blanc qu'on a eu juste après, il est toujours resté. Didier Deschamps est toujours resté là, et après il a su remonter un peu l'équipe, en tout cas actuellement. Donc voilà, je pense que ça peut être un petit peu pareil. Donc on ne les attend pas encore une fois pour le championnat d'Europe. Voilà, on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc
il a, on va dire, au moins un joker.
Il
y a au moins un joker. Et en termes d'entraîneur réputé, de fin tacticien, potentiellement candidat pour 2024, si ça se passe mal en 2021.
Pour moi, il y en a un qui est exceptionnel, mais qui ne viendra jamais, c'est
Canaillé.
Ouais,
de Montpellier.
Exactement. Pour moi, qui est au-dessus du lot, qui est un précurseur un peu.
Ouais, alors c'est quoi? Il n'est pas fédération française compatible?
Non, je pense qu'il a tellement un projet énorme à Montpellier. que c'est compliqué de le quitter.
Ouais.
Et mais lui, il a l'avantage, c'est que sans grande star, il te fait une équipe incroyable. C'est un fin tacticien, les équipes sont huilées, c'est incroyable comment ça joue. Il y a que lui pour moi.
Il y a pas mal de joueurs de Montpellier ou pas dans l'équipe de France
Oui, il y en a. Il y a Valentin Porte. Il y a
À Cambrai, je sais pas.
À Cambrai. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y en a un peu moins quand même. Ouais. Il y en a un peu moins qu'avant. Mais c'est comme je vous dis, c'est que c'est pas forcément des joueurs extraordinaires. Mais
pourtant, ils sont présents en tout cas dans les championnats.
Ouais, il y a un projet. Y a un
même si cette année, c'est un peu plus dur en championnat. Ils sont huitièmes, je crois. Il y a un petit trou là.
On y reviendra après. On bascule du côté des féminines, toujours équipe de France. Là aussi, titre olympique. C'était le lendemain du sacre de l'équipe de France masculine. On s'en souvient, c'était contre la Russie. Là aussi, équipe de France portée par des cadres que l'on connaît, qui avaient déjà été sacrés championnes du monde et d'Europe.
Et vice-championne olympique aussi, je
crois. Ouais. Et porté par un sélectionneur surtout Olivier Combols qui est insubmersible, on a l'impression. Alors il s'était fait éjecter il y a quelques années avant de revenir en force. Qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe, parce que quand même le personnage c'est un personnage qui fait l'objet de controverses avec des méthodes de management parfois un peu brutales, dit-on.
Exactement.
En quoi aujourd'hui est-il indispensable à cette équipe de France féminine ?
Je pense que c'est le seul à pouvoir diriger cette équipe-là, dans le sens où c'est lui qui a fait venir tout le monde un peu. Tout ce qui est Alison Pinault, Sirama Dembélé, c'est lui qui les a sortis d'un peu partout. Et je pense que c'est là, dans la psychologie, il est très très fort.
Et pourtant, on a vu qu'il n'avait aucun mal à se débarrasser de cadres qu'il avait mis en place et qu'il avait rappelé. Je pense notamment à Camille Aiglon, dont il s'est passé de ses services sur les dernières compétitions. Si aujourd'hui il est encore en place et qu'il a le soutien de toutes les joueuses.
Bah, je pense que ça a été un accord avec certaines joueuses.
Ouais.
Et tu fais jamais ça sans l'accord de tes cadres. Donc voilà.
Donc aujourd'hui, c'est qui les cadres? Amandine Leno,
Alison Pinault. Dembélé, je ne sais pas si elle va revenir avec sa grave blessure. On verra, mais parce qu'elle a 34 ans, c'est pas facile. Mais je pense qu'il est fort dans la construction de son groupe. Et je pense que si tu ne le suis pas, il est capable de... Il n'y a pas de sentiment, je pense. C'est ce qui fait sa force.
Alors, on revient rapidement sur cette finale contre la Russie. Clairement, quand on affronte une équipe comme la Russie en handball féminin, c'est pas du tout gagné d'avance, surtout lorsque la Russie a son équipe au complet. On rappelle, la meilleure joueuse de handball aujourd'hui du monde, Anna Vyacheva. Ouais. Elle est russe. C'est une équipe à chaque fois qu'on a du mal à faire bouger. Et pourtant, on se souvient, ils ont commencé le match tambour battant. On était sur une série, on était sur une correction.
C'est ça, exactement.
Première partie de la première mi-temps.
Ce qui est bizarre, c'est que, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais la finale ne m'a pas fait peur une seule fois, même avant le match. Non. C'était plus la demi-finale que j'appréhendais. Que la finale. J'étais persuadé que la finale allait bien se dérouler.
Je ne pense pas qu'elles avaient un petit complexe quand même contre
non, je pense qu'ils ont enlevé le complexe contre les Norvégiennes en demi-finale.
Par exemple, là où on n'attendait pas les garçons, en tout cas les femmes, par contre,
On les attendait. Mais peut-être pas à la finale, au titre.
Peut-être à la finale.
Tu avais les Pays-Bas, quand même, qui étaient championnes du monde titre. Ouais. On avait les Norvégiennes.
Moi, à mon avis, c'est les Norvégiennes. Une fois que tu passes les Norvégiennes, pour moi, les plus fortes, c'est les Norvégiennes. Et c'est là l'exploit. C'est pas forcément en finale contre les Russes.
Même question, qu'attend de cette équipe pour les prochains championnats du monde qui auront lieu en Espagne? Ça sera là dans quelques semaines, au mois de décembre. Elle est attendue, cette équipe, et un peu à l'instar de l'équipe de France masculine, parfois quand on l'attend trop, quand on lui demande de confirmer ses prestations, ça ne se passe pas comme prévu.
Oui, après, personnellement, je pense qu'elles iront facilement jusqu'en demi ou en finale. Pour les prochaines compétitions. facile.
Gros pronostic, oui. Jérémy. Là.
Moi, je suis pas trop d'accord.
Ouais, je suis pas trop d'accord. Parce que attention, Jérémy, on va enregistrer.
C'est enregistré. Il y a pas de soucis. Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il va pas mal renouveler, justement, au vu des JO.
Ouais.
Préparer les JO 2024. Et je pense que l'équipe sera jeune.
Tu penses
plutôt?
Ouais, je pense qu'il y aura toujours les cadres, mais ça va pas mal faire tourner. J'ai pas trop de noms encore parce que voilà, mais
ouais. Alors il y a une jeune, hein, très jeune, Paoletta Foppa, ouais. La moins de 19 ans, moins de 18 ans, même.
Impressionnante.
Ouais. Ah ouais. Qui joue au poste de pivot,
ouais, exactement.
Et qui avait déjà sorti une grande compétition juste avant les JO. C'était certainement les championnats d'Europe. Voilà. Et les championnats du monde l'année d'avant, et puis elle était présente et
ouais, je pense que c'est
a pas mal de buts au JO.
Elle est impressionnante, ouais. Main gauche, main droite, elle a tout, c'est tout faire.
C'est qui les cadres actuels là, de cette équipe de France féminine qu'on peut retrouver en 2024 parce que choix cornélien pour les gardiennes, parce que au JO on avait le droit qu'à deux gardiennes. Et puis, donc, enfin, Amandine Lénaud, bon, bah, c'est la taulière, voilà, elle est là. Après, le choix entre Laura Gloser et puis Cléopâtre Darleux. Alors, je crois que Laura Gloser était en période post-maternité.
C'est ça.
Elle pouvait revenir hein, dans le groupe durant les JO, mais le sélectionneur lui avait préféré Cléopâtre Darleux, qui elle-même, d'ailleurs, a indiqué eh bien, des souhaits hein, de maternité avant les prochains JO.
Bah, les doublettes de gardien, c'est pas facile. Une fois que vous avez trouvé votre doublette complémentaire et qu'arrive à s'entendre, c'est surtout ça le problème du hand, au niveau des gardiens. Je pense pas qu'il faut changer.
Bah, là, on a l'impression que ce soit Léno Darleux ou alors Léno Gloser, il n'y a pas de problème.
Non, il n'y a pas de problème. Après, c'est une question de choix. C'est lui qui fera ses choix, voir aussi dans quel état physique ils sont et mental aussi. Voir que chacun a envie. Hein. C'est toujours pareil.
Bon, en tout cas, ça sera dans quelques semaines, les championnats d'Europe de handball chez les féminines. On va parler de handball de club maintenant avec vous, messieurs. On va parler de la division, première division du championnat masculin, D1 féminine également. Et on va commencer par une info toute fraîche, puisque Nicolas Karabatic a prolongé son contrat au PSG Handball jusqu'en 2023. Donc il sera là encore l'année prochaine. Il a 37 ans aujourd'hui, Nicolas Karabatic. Jusqu'à quand peut-il poursuivre sa carrière en étant un titulaire quand même sérieux, dans une équipe sérieuse comme le PSG Handball?
Paris 2024. Pour moi, c'est ça.
Ça sera qu'une question d'envie. Tu ne penses pas qu'à un moment donné, le physique.
Physiquement, il a toujours été au-dessus du lot déjà.
Mais il joue quand même à un poste où il a besoin d'avoir des appuis et des genoux en bon état.
Ah, ça. Les genoux, bon, il en a pété un là. Ouais. Il est revenu bien.
Il est revenu.
Mais bon, c'est clair, ce ne sera plus 60 minutes par match. Ouais, mais je pense que dans un mec comme ça, dans les moments clés d'un match, c'est trop important. Et il est encore très performant. Moi, ça me fait pas peur. On voyait
pas du tout.
Fernandez à l'époque, jusqu'à 42 ans, il a joué meilleur buteur de l'histoire du championnat. Il était performant jusqu'à 42 ans.
Ouais.
C'est pas du foot. Ouais,
c'est pas du foot. Ouais. C'est pas pareil.
C'est pas pareil.
Donc Nicolas Karabatic, qui sera là au moins jusqu'en 2023 au PSG Handball, et on le présume en équipe de France. On va voir s'il va aller jusqu'à 40 ans aussi. PSG Handball, bon, il est arrivé en tant qu'icône, hein, ça a été l'égérie du club pendant très longtemps, dès l'arrivée des Qataris au PSG Handball. Le PSG qui règne sans trop de difficultés, on le va dire, sur le championnat de France,
oui.
Malgré quand même quelques places fortes du handball en France, je pense à Montpellier, je pense à Nantes.
Ouais.
D'ailleurs, Montpellier qui a remporté la Ligue des Champions il y a quelques années. Et,
voilà.
2017, je crois.
Exactement.
C'était le fameux Final Four où, chaque fois, on galérait à avoir des équipes au Final Four. Et là, on en avait 3 sur 4.
Ouais, c'est ça, exactement. Il y avait 3, le PSG, Montpellier.
Avec Nantes.
Et Nantes.
Ah ouais.
Ouais.
Et là, quand ça devenait facile pour le PSG, finalement, ils se sont.
Ils ont sombré.
Ouais. et on a eu donc une finale 100% française. À cette occasion. Donc ouais, c'est quoi les grosses écuries à part le PSG Montpellier, à une époque, il y a eu Aix, toujours d'actualité.
Ouais, quand il y avait les frères Karabatic, justement.
Ouais.
Aix, ouais.
Ils viennent de là.
C'est ça.
Chambéry, là où venait Richardson à l'époque.
Voilà. Les frères Gilles.
Ouais.
Richardson.
Ils sont toujours là aussi.
Ils sont toujours là, un peu moindre mesure quand même, mais ils sont toujours présents. Ouais, c'est les championnats, c'est les équipes phares de nos championnats, quoi.
Bon, on a quand même l'impression qu'il y a un gap entre le PSG et puis les grosses écuries et puis des petites écuries.
C'est 6 titres de suite, hein, le PSG, c'est ça.
C'est
hein.
Ça, exactement. Ouais. Mais il y a Montpellier qui fait toujours son. Bon là, c'est, je sais pas pourquoi ils sont 8e, ouais. Là, je sais pas ce qui se passe cette année là, mais.
Ouais.
Ils font toujours des troubles faites. Hein. Comme je vous ai dit, il a pas forcément des joueurs. Il y a des bons joueurs, mais.
C'est l'agencement de l'équipe qui fait
même que... Même en Ligue des Champions, on voit Montpellier qui est premier de sa poule.
Ouais.
Et qui est 8e en champ. Et Paris qui est à 5e de sa poule en Ligue des Champions, mais premier dans le championnat.
Alors, on va en parler hein, de cette malédiction parisienne à chaque fois en Coupe d'Europe, que ce soit d'ailleurs en handball
ou en foot.
Ou en foot. Le PSG, sur les 6 précédentes éditions de la Ligue des Champions handball, c'est 5 fois le Final Four, donc 5 fois au moins les demi-finales. Mm-hmm. Quelques finales toutes, enfin une finale d'ailleurs perdue celle-ci. Finale perdue d'ailleurs contre l'équipe dont le coach est devenu ensuite le coach du PSG. Je sais pas comme c'était Veszprém ouais. Ou non le Skopje, le Varnar je crois.
Vardar.
Ouais, Skopje, Vardar. Ouais c'est ça. Ok, qu'est-ce qui manque là concrètement au PSG là?
Bah, l'expérience, c'est un peu la même chose.
Mais quand même, ils font Final Four à chaque fois.
Mais le club,
c'est des gros joueurs. Hein.
Ouais, mais l'environnement du club, je pense aussi ça y joue. Dans le sens où c'est pas un club qui a encore l'habitude de Montpellier, Vardar, ça fait des décennies ils sont là.
Ouais, mais là on est bien d'accord que c'est dans la tête que les joueurs
n'y arrivent pas. Quand t'arrives en finale, t'arrives en demi-finale, je suis pas sûr, hein, ça joue pas grand chose. Hein. C'est un peu de réussite aussi, hein, beaucoup de réussite. Hein.
Le problème du PSG handball, c'est que j'ai l'impression que quand ils ont des matchs sans, bah c'est vraiment des matchs sans.
Ouais, c'est vrai.
Je me souviens à une époque, c'était fait éliminer en quart de finale en prenant une valise au match aller, en faisant une demi-remontada au match retour. Mais le match aller était scandaleux. Là, c'est pareil, les matchs du PSG qu'ils perdent sur match sec en Final Four. Ils jouent pas à leur niveau. C'est ça qui est frustrant avec cette équipe.
C'est compliqué. C'est ce que je vous dis, je pense que c'est un peu comme le PSG Foot. C'est un club qui a été restructuré, qui est très jeune. Et pour moi, ils ont les joueurs, mais derrière le club, il n'est pas encore fort. C'est pas un club derrière où tu as une institution très forte. Où... Là, ça commence à changer parce qu'il y a Omeyer qui a pris la place de Martini. Et je trouve justement que.
Alors, qu'est-ce qu'il va apporter concrètement, Thierry Omeyer? Parce que là aussi, il y a eu des doutes hein, sur ses compétences, sur son aptitude à endosser le costume.
Et je pense qu'il a changé le projet un peu déjà. Il a un peu changé le projet. On dit tous PSG quand on est en train de perdre ses meilleurs joueurs, etc. Mais moi, je trouve qu'il est en train de créer plus un groupe plus fort, peut-être individuellement un peu moins fort sur certains postes. Mais je le trouve plus cohérent, le groupe. Donc plus cohérent. Ça met du temps un peu à se mettre en place. Mais moi, je crois plus cette année une victoire en Ligue des Champions du PSG que les autres années. Parce que tu as un retour de Karabatic, parce que tu as un Luxtens qui est incroyable. Tu as un Jérémy. Moi, j'y crois. J'y crois fort.
De toute façon, cette année, c'est un peu l'année ou jamais. Là.
Ouais.
Dernière saison de Mikkel Hansen.
C'est ça.
Rémilly qui part aussi la saison prochaine.
Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy?
Eh ben, c'est vraiment l'année où il faut te miser. Hein, parce que avec des jeunes, justement, comme ça, où ils peuvent apporter beaucoup à l'équipe. Donc, ouais, vraiment, c'est l'année où ils peuvent essayer de faire quelque chose.
Ouais, mais là, vous parlez de cette génération, en tout cas de ce premier cycle. Parce que. Un deuxième cycle est en train de se lancer et pourquoi pas jouer les premières places en Ligue des Champions. Là, vous parlez vraiment de cette fin de génération, tous ces contrats qui vont se terminer en 2022, en fait.
Ouais, le problème pour moi, c'est surtout qu'on a des têtes d'affiche, des cracks. Mikkel Hansen, c'est une valeur sûre du club. Ouais. Il n'y en a pas deux aujourd'hui dans le monde des Mikkel Hansen.
C'est
pour ça que moi, j'arrive pas bien à comprendre.
Moi, je pense qu'ils sont un peu en mission cette année. Moi, j'y crois. C'est leur dernière année un peu tous ensemble.
Ouais.
Je pense qu'ils sont en mission un peu. Et quand ces gars-là, ils sont un peu en mission, un peu haut. Ils n'ont plus le choix, là. Sinon, leur venue au PSG, elle aurait été un peu tronquée. Hein.
Ouais. Pareil aussi pour le coach. Raúl González.
Ouais, je pense, c'est l'année où soit tu dois partir.
Ouais, c'est sa quatrième
ouais,
année.
Ouais, c'est ça. Et c'est soit maintenant, soit il faut miser sur quelqu'un d'autre. Après, qu'est-ce que veut faire les Qataris avec le club? C'est encore une autre question.
Bah, le budget, il est en diminution, c'est,
ouais, exactement.
C'est acté, ça.
C'est ça. Ouais. Et il faut voir sur quoi ils s'orientent. Donc, c'est pour ça, c'est l'année ou jamais, à mon avis. Après, je ne sais pas trop sur quoi... Et qu'est-ce qu'on va avoir les années futures?
Bon, si je vous écoute, messieurs, c'est au moins Final Four cette année. Hein. C'est enregistré aussi. Hein.
Voilà, minimum.
Rémi, Julien.
Moi, j'y crois. Moi, j'y suis.
Final Four pour le PSG.
Et pour Trapp. Non,
bientôt, bientôt. On va parler de D1 féminine maintenant, messieurs. On aurait pu dire ces dernières années que Metz, c'était un peu l'équivalent du PSG handball chez les filles. Mais Brest a fait une sorte de Montpellier masculin l'année dernière en se hissant en finale de la Ligue des Champions. On le rappelle, Metz, entraîné par Manuel Maillonnade, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas qui était champion du monde avec les Pays-Bas, il s'est fait virer. Le pauvre, juste après les JO. Et d'ailleurs, c'est rare que dans les sports, on ait des entraîneurs de grands clubs et à la fois sélectionneurs de l'équipe nationale. Je pense que c'est l'un des rares sports, le handball, avec peut-être le basket.
Le volley aussi, un peu.
On voit ça. Le volley aussi, effectivement.
Ouais.
Mais la Metz, c'est clairement l'équipe française qui a le plus gros budget, qui a en tout cas le plus grand nombre d'internationales françaises. Qu'est-ce que vous arrivez à suivre régulièrement les performances
C'est plus compliqué, même niveau diffusion, droit télé, c'est compliqué de suivre le championnat. Et je pense que c'est aussi les limites du handball en club français.
Ouais.
Il n'y a pas beaucoup de visibilité. Mm-hmm. Et même les plus gros budgets français sont encore loin des gros budgets des clubs étrangers. Et je pense que c'est très dur de rivaliser parce que je crois qu'ils ont fait on a fait une finale avec les champions, mais je crois que c'est une des seules de l'histoire.
Il y a eu une demi, je crois, 2-3 ans avant avec Metz, justement.
On ne l'a jamais gagné non plus. Ligue des champions féminines, on ne l'a jamais gagné. Je pense que c'est qu'on voit les budgets des clubs et la masse salariale. Tu vois, une joueuse française, c'est 2000 euros par mois à peu près, à haut niveau. Et les meilleures joueuses dans les meilleurs clubs, ils touchent 15 000 euros par mois. Au bout d'un moment, c'est compliqué de rivaliser. Les meilleures joueuses, ils partent, tous.
Et d'ailleurs, les meilleures joueuses françaises, cette dernière saison, se sont aussi délocalisées à l'étranger. Voilà. Certaines en Hongrie, puisque effectivement, en Hongrie, il y a... cette ville de Győr, c'est l'une des grandes villes de Hongrie, Győr, même si cela ne parle pas à tout le monde.
Ça ne parle pas trop.
Quand on pense à la Hongrie, on pense plutôt à Budapest. C'est d'ailleurs à Budapest qu'a lieu chaque année la finale de la Ligue des Champions, le Final Four version féminine. Győr, c'est aujourd'hui la place forte du handball féminin avec des Françaises, des Norvégiennes, des Hongroises, parfois des Allemandes.
Des Norvégiennes aussi.
Alors, pour les gardiennes, ils sont pas embêtés. Hein, ils ont pris Leno, ils ont pris Zloser. Ils ont aussi une internationale norvégienne dans les cages. On a aussi Estelle Enziminko, qui est l'une des principales artisanes des différents sacres français de l'équipe de France ces dernières années. La demi-centre aussi, Oftedal, de la Norvège.
Très forte.
Comment ça se fait qu'on a une équipe comme Győr qui domine l'Europe, alors qu'en France, on a une équipe de France qui gagne, on a quand même de l'argent, on a une fanbase, on va dire, qui se développe au niveau du handball, des budgets en augmentation, et pourtant, on ne peut pas rivaliser avec des équipes hongroises. Pire, on se fait piller nos internationales. Comment l'expliquer?
Est-ce qu'on a des partenaires comme Audi, par exemple? Parce que Győr, ils sont en partenariat avec Audi.
Voilà.
Audi, ils ont un naming.
Ouais, ils ont un naming aussi. Voilà,
s'ils ont des avantages que nous n'avons pas, forcément... Voilà, ils peuvent déjà plus nous piquer des talents.
Moi, pour moi, c'est financier le problème.
Voilà, c'est ça.
Ouais, il est uniquement financier. Faut pas se voiler la face. Hein.
Les salaires sont plus hauts, donc forcément, c'est plus attractif.
Bah, je pense que la plus petite joueuse de Björk là, touche 6 000 euros par mois, je pense que j'ai vu. La plus grosse, une des plus grandes joueuses de nos équipes à nous, ils sont à 2 000-3 000 euros par mois. Au bout d'un moment, il faut que tu construises ta vie. Et... Mais après, ça n'empêche pas qu'il n'y a pas que ces équipes-là et on devrait faire mieux quand même. On devrait faire mieux quand même. Est-ce que nous, le championnat, il est assez attractif? Je ne sais pas.
Après, c'est, ça se développe. Hein. Ça veut dire que c'est, ouais. Voilà, ça commence à être de plus en plus répandu. Donc, je pense que dans quelques années, peut-être que là, on peut peut-être plus essayer de rivaliser. En tout cas, avoir une équipe vers qui voilà, se tourner comme référente pour la France. Mais sinon, pour l'instant...
Par exemple, si on prend le sport féminin, tout court, qu'on va en Norvège, le sport est beaucoup plus féminin et beaucoup plus développé depuis beaucoup plus longtemps. Donc, ça veut dire qu'ils sont l'équivalent des garçons ou quelque chose comme ça. Même dans la rediffusion, vous voyez un handball masculin, féminin, autant la télé, alors que chez nous, pour aller voir un handball féminin, c'est compliqué.
Tu veux dire qu'il y a une histoire et une culture du handball en Norvège.
Voilà, exactement. Et après, on a une culture handball. Mais chez les filles, le problème, je pense, c'est la visibilité. Ouais. Est-ce que même nos meilleures joueuses à nous estiment que dans notre pays, ils sont assez vus, est-ce qu'ils sont assez suivis, est-ce qu'ils sont assez regardés, est-ce qu'ils voilà.
En Hongrie, on peut voir les handballeuses, donc les féminines, sur des écrans publicitaires.
Exactement. Chez nous, on les connaît pas.
Et alors, avantage qu'a Gyor sur la scène européenne en matière de compétition, c'est qu'à chaque fois, le Final Four, il se déroule à Budapest, en Hongrie. Donc, il joue à chaque fois en domicile.
Ça, c'est dingue quand même.
Comment ça se fait qu'on a au handball un partenariat comme ça de longue durée sur qui va accueillir la finale? Parce que ce soit en rugby, en football, le tournoi des Masters en tennis, à chaque fois ça change. Chaque année on change de pays.
Je pense qu'ils ont un contrat derrière, encore c'est pareil, ça doit être financier. Ils ont dû passer un contrat incroyable avec les représentants. Je sais pas ce qu'ils ont fait.
Parce que ça joue aussi. Si on avait une finale.
Ben oui, c'est incroyable. C'est comme si chaque année on fait à Paris la finale des champions de foot, quoi.
Forcément.
Bon, ça, faut y aller déjà. Mais
il me semble que c'est la même chose pour le Final Four masculin ou pas?
Non,
je sais plus.
Je
non,
pas.
Ça change à chaque fois.
Ouais, ça change de mémoire. Ouais, ça change.
C'est pas à Cologne?
Ouais, c'est ça. C'est en Allemagne, ouais.
C'est en Allemagne, ouais. Je sais pas si c'est chaque année ou peut-être qu'il y a eu.
Je sais plus. Mais ça, c'est bizarre quand même. Ça, c'est bizarre, ouais. Je trouve ça pas ouf, moi.
Ça se déplace pas?
Ouais, que ouais. Ça se déplace pas, ouais. Ça devrait être en France, voilà, dans les gros pays de
pour
handball,
développer
quoi.
Le hand en Europe, quoi.
Bah ouais, c'est un peu. Après, c'est peut-être où il y a plus de public aussi.
Oui, c'est sûrement ça.
Ouais, où il y a plus de public. Bah après, je pense que tu fais un final fort en France à Bercy, tu vas faire.
Oui, bien oui, c'est carton plein, c'est sûr.
Donc je sais pas. Faut voir aussi niveau droit télé, peut-être. Je pense que ça y joue aussi. Peut-être là-bas, c'est beaucoup diffusé, pas trop chez nous. Je pense que c'est tout ça à regarder, je pense.
Alors maintenant avec vous, messieurs, on va parler toujours de handball de club. Et chaque week-end, il y a beaucoup de public où la SC Trapp joue. Avec vous, messieurs, Julien Kerville, Jérémy Mordier. Donc Julien, tu es le directeur technique et le coach de l'équipe première. Et Jérémy, c'est le capitaine de l'équipe.
Capitaine.
Merci à vous d'être présents, messieurs. Alors comment expliquer l'ascension fulgurante du club de Trapp ces dernières années, parce qu'on parle quand même de 7 montées consécutives lorsque les saisons ont pu aller à leur terme. Racontez-nous, monsieur.
Ben, je vais commencer, puisque ça
Jérémy,
fait plus
vas-y.
Plus longtemps que je suis au club que Julien.
Ben, t'es le capitaine,
donc,
vas-y.
Donc alors, je suis le capitaine que depuis cette année, donc voilà. Alors, le club a été fermé il y a quelques années, et en fait, il a réouvert justement avec... certains piliers qui ont cherché à réouvrir le club. Et en fait, ça a attiré pas mal de joueurs de bon niveau. Et justement, on a dû recommencer depuis le tout début. Moi, j'ai commencé genre deux ans après la création du club.
Ouais. Alors, donc, c'était des joueurs de bon niveau à Trapp ou alors
aux alentours
dans les Yvelines.
Dans les Yvelines, voilà. Ils ont toujours eu un bon niveau. Et justement, la cohésion du groupe est justement l'objectif de pouvoir monter et avoir une bonne ascension, justement. Et ben, on nous a, voilà.
Donc, vous êtes reparti dès le premier échelon.
Exactement. Et on n'a fait que des montées successives. Voilà.
Ouais.
Donc voilà, jusqu'à maintenant. Et justement, on a dû attirer justement Julien, qui justement jouait à Aubervilliers, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc du coup, il a vu le potentiel du club. Et donc du coup, il a cherché à investir justement plus d'énergie. Et voilà, Donc voilà, le projet reste le même et maintenant on cherche à atteindre la prénationale et atteindre la nationale.
Ouais, donc voilà, là, vous jouez à quel niveau cette saison ?
Nous sommes en excellence régionale.
Ouais.
Donc voilà, et nous sommes à deux niveaux et voilà, c'est notre objectif. Bouge pas.
Ah ouais, non, mais voilà. on suit le club hein, ici dans cette émission, effectivement. Voilà, quand le club était encore au niveau départemental, on était déjà présent avec vous, messieurs. Bah, alors, Julien, toi, qu'est-ce qui t'a plu dans le projet trappiste ? Comment on te l'a vendu ? Et même question, comment est-ce que tu expliques là bien le fait que le club est toujours en dynamique positive ?
Moi, je suis venu un peu par hasard. J'ai toujours joué un peu plus haut niveau, toujours à tous les échelons nationaux. J'ai entraîné beaucoup aussi en national, sur les moins de 18 de France, etc. Et je suis arrivé un peu par hasard à Trappes, à la base pour jouer. Voilà, ça se passait pas très bien avec l'ancien coach, faut dire la vérité. Et j'ai vu le potentiel qu'il y avait dans le club. Donc que ce soit potentiel jeune, et c'est ce que j'avais vécu un peu à Aubervilliers, potentiel jeune incroyable et une bonne équipe. Mais qui était un peu décousu à l'époque. Voilà.
Et avec un budget plus petit par rapport au
Aubervilliers.
Ouais.
Voire 10, voire 15 fois moins, ça n'a rien à voir.
Ah, parce que là, maintenant, vous êtes dans la position du club qui doit faire ses preuves.
C'est ça.
Auprès de toutes les collectivités territoriales pour avoir du financement. Donc, vous me direz après hein, ce qu'il en est.
Nous, on est tous bénévoles. Donc là, pour commencer, il n'y a personne qui touche de l'argent. Hein. C'est vraiment un projet à long terme et c'est un projet aussi qui est important pour nos jeunes. Donc quand tu crées un club ou tu es dans une dynamique un peu, moi, dans la mienne en tant que directeur sportif, c'est soit tu vas chercher des sponsors et des partenaires pour financer et faire venir des joueurs, ou soit tu pars à la source. Et tu formes tes joueurs. Nous, c'est ça qu'on mise là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a structuré le club pour avoir les plus hauts niveaux dans chaque catégorie de jeunes. Donc, c'est ça la grosse progression du club. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit en garçon ou en fille, on peut sortir du niveau régional et championnat de France grâce aux différentes ententes, etc.
Alors, quand tu dis que vous bâtissez autour des jeunes, comment ça se passe ? Vous faites des journées de détection ? Vous êtes en relation avec les écoles de Trappes ? J'ai envie de vous dire, cela n'empêche pas aussi d'aller chercher des sponsors en même temps.
C'est compliqué. C'est compliqué de mettre de l'argent dans un groupe senior. Pourquoi tu payes lui ? Pourquoi j'ai des primes de match ? Ouais. Pourquoi lui ? Je ne veux pas mettre d'argent. Exactement. Voilà, concrètement. Même si demain, j'ai un sponsor qui nous dit « Ouais, j'ai tant à mettre », ça ne m'intéresse pas.
Mais est-ce que ce n'est pas une manière de vous armer pour l'avenir et contrôler certains flux, certains transferts ? Parce qu'au bout d'un moment, vous allez attirer les convoitises. Ouais, et peut-être que c'est déjà le cas.
On attire les convoitises, mais il faut que ce soit le projet qui t'attire. Voilà, c'est ça, c'est la seule chose. Nous, on a un club où les gens veulent venir parce qu'on a un public incroyable. C'est blindé tous les week-ends. Là, on est parti jouer, comme je vous expliquais juste avant, en Coupe de France ce week-end. On est parti à 70, un quart des voitures.
Ça, c'était effectivement l'actualité du week-end. Vous étiez en Coupe de France.
Voilà.
Contre qui vous avez joué ?
On a joué contre Rugles, une équipe normande.
Ouais.
De régional aussi, niveau régional. Et donc, victoire 18-25, il me semble.
C'est ça.
Ouais, 18-25 là, sur leur terre, avec 80% du public de Trappes.
Ah, vous avez ramené les ultras.
Ouais, exactement. Les ultras jusqu'en Normandie. Et voilà. Et encore, normalement, on a 200-300 ultras. Là, on a ramené un peu, mais les plus virulents. Donc,
exact.
Et tu gères aussi, Julien, en tant que coach et en tant que directeur technique, le recrutement, les départs, les arrivées, comment tu t'organises ?
Nous, on a la chance de quasiment pas avoir de départ chaque année. C'est ce qui fait un peu notre force, c'est qu'on renforce, mais on ne perd pas de joueurs. Voilà, on en a perdu un sur blessure, voilà, on en a perdu un autre, mais qui ne s'était pas fait... Dans le club, on a quasiment jamais joué et le reste, c'est que des recrues. Donc chaque année, on renforce l'effectif. Deux joueurs qu'on essaye d'avoir, c'est soit on prend du jeune qui a gros potentiel, où je peux travailler au moins sur 4 ou 5 saisons avec eux, ou soit des joueurs un peu plus expérimentés qui nous apportent directement leur vécu un peu. Voilà, c'est ce que je cherche.
Alors au niveau des jeunes, comment le club fonctionne ? Parce que je sais que dans le département des Yvelines, il y a beaucoup d'ententes. Et peut-être que ce n'est pas propre aux Yvelines. Et puis on se souvient à l'époque, on a accueilli pas mal de fois des personnes du team 78. Donc les ententes sont à la mode chez les jeunes. Est-ce que tu es aussi sur cette politique-là ?
On est obligé. Donc concrètement...
Alors c'est une obligation parce que c'est comme ça, c'est statutaire, c'est une demande de la Ligue ?
Non, pas du tout. C'est une obligation pour... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si vous mettez des jeunes en régional ou dans des niveaux nationaux, derrière, on a des obligations. Des questions d'arbitrage, des obligations financières, etc. Et nous, on a un petit club qui ne peut pas forcément suivre sur tout ça. Donc, ce qui est important pour nous, c'est qu'on offre la meilleure formation possible à nos jeunes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est obligé d'entrer dans des ententes pour que nos meilleurs profils jouent le plus haut niveau. Voilà, donc on a l'entente Sky sur nos moins de 16, moins de 18 au niveau régional et on a l'entente Yvelines Handball sur le niveau championnat de France. Mais on est un gros fournisseur de joueurs sur ces ententes-là, tout en sachant qu'ils s'entraînent aussi avec nous. Et voilà, donc ce qui nous permet d'avoir, nous récupérer dans le futur où là, qu'on commence nous à récupérer déjà 3 jeunes de la formation, chaque année. Chaque année, on arrive à avoir récupéré des jeunes. Et le but ici, c'est que le jeune soit le mieux formé possible et le plus haut niveau possible.
Alors moi, de mon œil totalement novice en matière d'entente, je me dis comme ça, vu de l'extérieur, que l'entraîneur de l'entente, bah, il va davantage mettre les joueurs de son club à lui sur le terrain pour les faire progresser plutôt que les joueurs des autres clubs, les jeunes.
Bon, ça, on est vigilant. On est vigilant là-dessus. Vous avez raison de vous poser la question. Moi, je suis vigilant là-dessus. Il joue le jeu. Voilà, concrètement, il joue le jeu. Bon, des fois, peut-être, ça y joue entre deux joueurs de même niveau, etc. Peut-être qu'il va privilégier son joueur. Mais la question, elle ne se pose pas trop dans le sens où ils font du bon boulot. Et leur idée aussi, c'est de faire progresser un peu plus tous les jeunes. Voilà, et d'avoir des résultats. S'ils n'ont pas de résultats, il n'y a pas de requalification pour les championnats de France, etc. Donc, non, ça va, ça va. Après, même moi, à la base, je ne suis pas très fan des ententes, hein. Je préfère avoir mon club avec mes championnats de France, après, etc. Mais dans une structure de club, si on veut avancer, évoluer...
Ouais, il faut rentrer dans le moule, parfois.
On est obligé de passer par là. Peut-être, par le futur, on n'en aura pas besoin. Voilà. Mais en attendant, il faut qu'on travaille comme ça pour que nos jeunes aient la meilleure formation possible et obtenir les niveaux tout à fait acceptables.
Donc là, c'est ta troisième saison, Julien, à la tête du club. Donc tu as déjà connu le succès en termes de montée. Mm-hmm. Comment tu fais pour te réinventer en tant que coach chaque saison? Parce que tu l'as dit, vous êtes une sorte de famille, un gros noyau dur. Et j'ai l'impression que le défi aussi de ce noyau dur, c'est de se dire jusqu'où on peut aller ensemble. Comment tu appréhendes la chose?
Bah, c'est remise en question déjà chaque match. Chaque saison, c'est sûr que c'est des remises en question. Et après, on a un ressenti en tant que coach. Le plus important, c'est de savoir si tes joueurs te suivent encore.
Ouais.
Ceux qui sont motivés, ceux qui le sont peut-être un peu moins. C'est des questions perpétuelles, c'est des remises en question, peut-être apporter quelque chose de nouveau à chaque entraînement, chaque saison apporter encore quelque chose de différent. Il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer. Si les gars te suivent, parce qu'un entraîneur, si les gars ne te suivent pas... Ça marche pas.
Ouais, bon, de toute façon, t'inquiète pas, on va tout de suite demander à Jérémy si en tant que capitaine, il suit toujours son coach, là, ce début de saison.
Alors, ce début de saison.
Pas facile,
pour ma...
hein.
Non, pour ma part, j'ai pas été trop sur le terrain puisque j'étais blessé. Et donc, du coup, là, je reviens petit à petit. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, le groupe le suit. Par contre, on a eu quelques petits désagréments au tout début qui faisaient que, voilà, on a subi quelques petites défaites qui ont mis un peu des tensions. Mais sinon, le groupe a un noyau tel que on a su se recentrer sur nous-mêmes. Et maintenant, pour repartir sur les bases justement, ouais, qu'on avait peut-être omises, étant donné que ça fait un an et demi qu'on n'a pas joué ensemble, dû au Covid. Donc du coup, voilà, on a dû se réhabituer à jouer ensemble. Ouais. Donc le coach, il a su, jusqu'à maintenant... nous guider, et donc du coup là avec le Covid, la distance qu'on a eu entre nous, donc là voilà, ça repart petit à petit.
Alors c'était quoi le lien entre le club et puis les joueurs pendant la crise sanitaire? On le rappelle, les sports collectifs en intérieur ont souffert avec des saisons blanches parfois. Comment vous avez géré ça?
On a mis en place les séances extérieures. Voilà. Donc avec le club, que ce soit pas que pour les seniors, des plus petites catégories jusqu'aux seniors. La mairie nous avait fourni des terrains de foot dans lesquels on a mis des cages de hand et on a continué à jouer au handball quand on a bon. On l'a pas pu tout de suite parce que pendant une grande période, on ne pouvait rien faire. Après, c'était des visios, de temps en temps des séances particulières, ouais. Des petits programmes.
C'est compliqué le rebond là sur la pelouse.
Ouais, interdit au rebond, interdit au dribble. De toute façon, j'aime pas le dribble. J'aime pas le dribble. J'aime pas quand je vois dribble. Je déteste ça. Donc ouais, c'est un peu chaud même sous la pluie le hand avec un rebond. C'est. Mais on est passé par là. On était obligé.
T'as des références, Julien, en tant que coach, des influences, des schémas tactiques que tu aimes répéter, en tout cas.
Moi, j'ai ma sensibilité un peu coach. Moi, j'ai eu la chance de connaître un coach, Ahmed Lagbi, là, pas forcément connu dans le grand monde du hand, mais au niveau amateur, qui est très connu. Un grand formateur de jeunes, qui est son fils professionnel d'ailleurs, qui a sorti beaucoup de joueurs pro, et Canaillé. Voilà, c'est mes deux références, Ahmed Lagbi, Canaillé. C'est des joueurs, c'est des entraîneurs qui t'apportent autre chose que ce que tu vois tous les jours. Donc voilà, la défense rugueuse et un beau jeu en attaque, rapide, vitesse.
Alors Jérémy, toi, tu nous as pas dit à quel poste tu jouais en tant que capitaine.
Je suis arrière-gauche.
Arrière-gauche, c'est plutôt, comment dire, un poste... Et est-ce qu'il y a des postes clés pour le capitana sur un terrain pour faire passer des messages?
Le demi-centre, ouais. Si on peut dire, puisque c'est lui qui a la vision de jeu sur un terrain.
Qui a la baguette.
Voilà, mais après, c'est en fonction de la personnalité. C'est vraiment de la personnalité. Est-ce que ton capitaine apporte à l'équipe? Voilà, c'est plus ça. Après, qu'il soit pivot, ailier, voilà.
Ouais. Après, c'est le patron défensif. Lui, il parle de l'offensif, mais en défense, c'est les numéros 3, c'est ceux qui donnent de la voix, qui dirigent la défense, et c'est son rôle. C'est son rôle. Et c'est la personne qui te relaie le mieux tes messages à l'intérieur d'un groupe. Quand ça va pas, quand je suis pas content, il le sait, il le transmet au groupe, et on me remonte aussi les problèmes dans les deux sens.
Tu pourrais avoir, Jérémy, des Neymar, Messi, Mbappé dans ton équipe qui ne reviennent pas défendre sur les phases de repli?
Oui,
parce que c'est ton rôle, hein, t'es le patron de la défense.
En effet. Bon, après, ce qui est compliqué au hand, c'est que quand on mène une attaque, et voilà, tout le monde est censé replier. Et après, c'est en fonction de est-ce que c'est la personne qui a tiré qui va prendre plus de temps du coup pour replier, etc., etc. Donc voilà. Moi, là où je serais plus le patron, c'est quand la défense elle est en place et donc justement on attend l'attaque adverse qui est une attaque placée. Et donc là, dans ces cas-là, là on fait vraiment barrage et là on peut y mettre de la voix. On fait attention au pivot, où est-ce qu'il traîne, on fait attention à qui attaque, qui porte le ballon, à quel moment tel ou tel joueur doit monter ou doit feinter de monter, voilà, c'est plus ça. Donc voilà, c'est plus à ce niveau-là.
Première saison en tant que capitaine de cette équipe, mais tu l'as dit, tu es dans le club depuis longtemps. Comment est-ce que tu t'es préparé psychologiquement pour passer de joueur, de taulier à capitaine? Est-ce que ce sont des responsabilités en plus? Est-ce que tu as eu la pression? Est-ce que tu as été aidé
Même par rapport aux autres joueurs.
J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. La dernière année où on a joué ensemble, j'étais vice-capitaine. Donc j'avais moins de responsabilités, j'étais plus
joueur. Donc c'est venu au fur et à mesure.
Donc voilà. Et vraiment cette année on m'a propulsé en tant que capitaine et comment dirais-je? C'est plus de pression, puisqu'on doit penser plus au social, on doit penser vraiment pour l'équipe, alors que jusqu'à maintenant, je pensais à moi pour l'équipe, mais là, cette fois, il faut penser pour l'équipe. Donc, c'est-à-dire qu'il faut penser aux autres et en même temps à moi. Donc, voilà. Je fais ce que je peux. Mon objectif, vraiment, c'est de monter, c'est-à-dire de savoir à quel niveau, moi, personnellement, je peux jouer. Et donc, du coup, je tirerai mon équipe au maximum vers le haut. Je vais donner tout ce que je peux pour ça.
Pareil, tu as des références à ton poste que tu suis au niveau des gestes techniques que tu essaies de reproduire chaque week-end sur le terrain?
On peut pas dire ça. Mais Hansen, principalement avec son coup de poignet, avec son tir sur le côté. Donc, voilà. Et sinon... le saut et la puissance de Redim Remili.
Ouais.
Voilà, donc
il est bien aussi, non? Quand tu vois de temps en temps mes tirs, non, tu peux.
Non, c'est pas une référence.
Alors, on est en période post-olympique et olympiade fructueuse pour le handball chez les hommes, chez les femmes. Est-ce que vous avez constaté un boom au niveau des inscriptions cette année?
Bah, je pense qu'on peut pas, à cause du pass sanitaire, on peut pas.
Ouais. Il y a eu moins de monde.
Ouais.
Avec le pass, moins
ouais.
d'inscriptions.
Moins d'inscriptions.
Vous êtes combien licenciés aujourd'hui là en
on
tout?
On est à 180 de mémoire. Et on était 230, je crois, ou 220. Donc on a perdu du licencié. Mais est-ce que quand le pass sanitaire va être voilà. retiré, on ouais. va récupérer pas mal de monde? C'est ouais. encore la grande interrogation.
Parce que ça, c'est un facteur général pour tous les sports, mais c'est vrai qu'avant le Covid, c'était quand même croissant hein, le nombre
oui.
d'inscriptions
oui.
au hand.
Oui, avant le Covid, oui, c'était chaque année ça évoluait. On était obligé d'inscrire même deux équipes par catégorie souvent. Donc là, normalement, après une grosse Olympiade, ouais, tu récupères beaucoup de monde. Mais là, avec le pass sanitaire, on ne sait pas trop où on en est en fait. On ne sait pas trop. On est censé récupérer beaucoup plus de monde, mais on a cette contrainte. Voilà, grosse contrainte même.
L'un des axes forts du club de Trappes pour les prochaines saisons, c'est le développement de la section féminine
oui.
Qui là aussi émerge sous forme d'entente il me semble.
Exactement.
Où vous en êtes sur le sujet?
Bah écoutez, moi je suis responsable de la partie masculine hein, c'est monsieur Benjamin Dobrouillard qui est responsable de la partie féminine. Mm-hmm. Mais nous on suit beaucoup donc on a des moins de 17 championnats de France aussi. Donc les filles jouent en championnat de France, les moins de 16 sont juste ce week-end pour les qualifications régionales. Chez les filles aussi, ils jouent tous le plus haut niveau. Quasiment dans toutes les catégories, on a des filles qualifiées dans tous les niveaux. Maintenant, le gros projet du club à l'avenir, c'est de créer une section masculine senior, féminine senior.
Ouais.
C'est le problème, c'est qu'on n'en a pas encore, mais c'est le projet de l'année prochaine. Monter la structure senior féminine. Voilà. Mais chez nos jeunes, on est très contents, on a des bons résultats, on a été battre le Havre. On part d'un but contre ici Paris, on a des super résultats avec le féminin. Ouais.
Résultat maintenant, championnat, l'objectif c'est la montée, ou alors on est arrivé à un niveau où il vaut mieux d'abord stabiliser, construire et monter.
La montée.
La montée.
La montée.
Bah ouais.
Voilà, la montée, c'est tout. On cherche juste ça.
Avec ça, qui ouais,
ça. Ça donne quoi niveau classement là pour vous rapidement?
Bah, le problème c'est qu'on a beaucoup joué à l'extérieur et on a deux défaites, une victoire, deux trois défaites, une victoire. Voilà. Mais c'est un peu tronqué. Je pense que on a eu du mal à repartir, mais comme ça se fait en deux phases de championnat, faut qu'on accroche les quatre premières places et après tout est joué en deuxième poule.
Mmh.
Donc là ils se sont réveillés ce week-end. Faut pas qu'ils se rendorment, sinon on va taper derrière la tête.
Ouais.
Et
prochain match à domicile, il est quand?
Il est au mois de novembre,
ouais,
voilà, deuxième semaine de novembre,
ouais, c'est ça.
Et contre Alfortville, grosse équipe aussi,
ouais.
Et on va battre Alfortville, n'est-ce pas?
Rappelez-nous rapidement dans quel gymnase on peut vous retrouver.
Gymnase Yuri Gagarin, c'est affiché partout, sur les réseaux sociaux, SC Trap,
ouais.
Généralement match à 18h30, et venez, grosse ambiance, vous allez vous faire plaisir.
Exactement.
Le message est passé, messieurs. Merci à vous, Julien Kerville, directeur technique et entraîneur de l'ASC Trappes Handball. Merci, Julien, d'être venu.
Vous.
Merci, Jérémy, capitaine de la même équipe. On te souhaite un bon établissement et revient fort sur les terrains.
Merci beaucoup.
Julien, merci à toi.
Merci à toi, Julien. Gilles. Salut à toutes et tous.
Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons Sport. Bon match, bonne semaine.
Merci à vous.
Merci.
Parlons Sport. Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.